Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. C'est aujourd'hui une première, la première émission d'une série d'émissions qui s'intitule « Et si on parlait de la Camargue ?». Je suis le docteur Jacques Jom, je produis et j'anime cette émission avec un intervenant, un invité permanent, bien connu des Saint-Gillois, qui fait beaucoup pour Saint-Gilles et la Camargue, le président de l'Académie de Saint-Gilles et la Camargue, Monsieur Michel Durand-Roger. Bonjour à toi Michel.
Bonjour, comment vas-tu ?
Je vais très bien. Quand tu es là, je vais toujours très bien. Michel est un passionné de sa ville, qui est les portes de la Camargue. Saint-Gilles, c'est les portes de la Camargue, c'est le début de la Camargue, donc c'est un Camarguais. Donc bonjour à toi, Monsieur le Président, bonjour à toi, Michel, et merci d'être avec nous pour partager ta passion des étangs, des flamands, des roselières, de la musique gitane, de l'eau et de la lumière de la Camargue. Alors avant toute chose, aurais-tu l'amabilité de mieux te présenter et de nous raconter ton intérêt pour la Camargue ?
Ben d'abord, comme tu dis, je suis président de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue. La raison pour laquelle j'ai fait ça, enfin avec toi d'ailleurs, c'est pour rapprocher l'idée de la ville de Saint-Gilles de la Camargue. Souvent, quand on parle de la Camargue, on parle des Saintes-Marie et de la Mer, d'Aigues-Mortes et d'Arles, et on oublie Saint-Gilles, ce qui est quand même dommage. Voilà. Alors effectivement, je me présente, je suis en Camargue depuis 70 ans, c'est quand même pas mal, je suis originaire de Montpellier, et Saint-Gilles, pour moi, est une ville affectivement très intéressante. Et surtout, actuellement, elle est en pleine transformation depuis à peu près une quinzaine d'années. Tout se refait et donc il faut qu'elle retrouve sa culture, qu'elle a en partie oubliée. Pas tout, mais elle a souvent, les Saint-Gillois oublient qu'ils avaient une basilique autrefois, qu'il y avait un port très important. Je ne dis pas qu'ils ne le savent pas, et surtout qu'il y avait un saint très important aussi, qu'ils ne le savent pas, mais ils l'ont quand même plus ou moins mis de côté. C'est une ville qui s'était endormie et qui se réveille complètement. Voilà.
Alors, donc, tu es président de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue, mais aussi tu es président de l'Association d'Histoire de Sauvegarde de Saint-Gilles. De ce titre, tu as fait beaucoup de choses.
Oui, c'est d'histoire et de l'association d'histoire et d'archéologie qui a été fondée par Mademoiselle Géolas à l'époque et qui est destinée à mettre en avant tout ce qui peut être culturel à Saint-Gilles. Elle le fait en symbiose avec la mairie, bien entendu.
Mais alors, bon, Saint-Gilles est une ville qui vit énormément. Donc, là, il y a l'abbatiale. Donc l'abbatiale, c'est ton domaine. Michel vit à l'abbatiale. Si tu me permets, mais c'est pas péjoratif sur l'aspect. Mais c'est le Quasimodo de l'abbatiale. Il donne une âme à l'abbatiale. Mais pas dans le côté physique, dans le côté présentiel. Bon, mais à Saint-Gilles, il n'y a pas que ça. Il y a d'abord la source de Saint-Gilles que Michel m'a fait découvrir. Il y a une culture taurine, il y a une culture, il y a un port, il y a les croisades, etc. Et puis, Michel, en cherchant, a fait une découverte très importante où il va habiter, c'est la maison du maître de l'ordre de Malte. Faut en parler quand même un peu.
Oui, alors, à Saint-Gilles, étant donné que c'était un port très important, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem se sont installés dès le départ. Pourquoi ? Parce que les pèlerins passaient par là pour aller en Terre Sainte, et pour cette raison, il y avait un hôpital qui a été fait par maître Gérard en Terre Sainte, et en même temps, il a fait un hôpital, le premier d'Europe, à Saint-Gilles. Quand on dit hôpital, il ne faut pas penser hôpital, en fait.
Oui, c'est une maison des malades.
Ce n'est pas que les malades, c'est simplement, c'était les pèlerins qui étaient accueillis. Voilà, c'est pas...
Très bien, mais en fait, il y a quand même l'ordre des Templiers. Il y a encore une rue des Templiers à Saint-Gilles, oui, qui donne sur le canal, pour ceux qui y connaissent. L'ordre de Malte était très important. Et Saint-Gilles, en fait, était un port, puisque le Rhône, à l'époque, n'était pas le même actuellement. Des gros bateaux pouvaient passer, et puis après, ça a changé. Ça s'est
Non, c'était quand même des bateaux à fond plat.
Oui,
il y avait des galères qui pouvaient venir.
Il y a des galères venaient jusqu'à Jérusalem. Quand même.
Parce que c'était à fond plat. Mais dans le Rhône, il n'y a pas des bateaux il y avait... D'ailleurs, c'est le même cas à Aigues-Mortes, c'est-à-dire que les gens partaient avec les bateaux à fond plat et ils retrouvaient les bateaux importants dans la Méditerranée.
Alors, l'émission, c'est si on parlait de la Camargue. Première question, et simple, hein, depuis quand parle-t-on de Camargue, ce lieu magique que nous connaissons toutes et tous? Depuis quand on parle le terme Camargue?
Alors, le terme Camargue est très ancien, on pense que ça vient des Romains. On ne sait pas exactement, il y a plusieurs versions, mais on pense que ça vient de l'époque romaine, c'était un territoire où il y avait une personne qui était là et qui a donné son nom plus ou moins à la Camargue.
Donc ce serait un patronyme, quoi.
Ce serait un patronyme, oui.
Non, d'accord. Et alors, on parle de la Camargue, mais est-ce que tu peux nous délimiter la Camargue, hein? Est-ce que c'est un territoire unique ou alors est-ce qu'il y a plusieurs Camargues?
Alors en fait, il y a deux manières de l'interpréter. Il y a les puristes qui disent que la Camargue, c'est uniquement la zone qui est entre les bras du Rhône. Mais en fait, quand on parle de paysage, ce n'est pas vrai. Parce que les Roms ont deux rives chacun, donc ils ont la rive intérieure à la Camargue, mais ils ont aussi la rive extérieure qui est identique. Ce qui fait que ce qu'on appelle la petite Camargue ou la Camargue gardoise rappelle complètement le même paysage que la Camargue interne. De l'autre côté, ce n'est pas le cas parce que c'est la Cro. Et la Cro, en fait, il y a les galets qui passent, qui sont des restes de glaciers de la Durance, qui ont été apportés par les glaciers de la Durance, qui sont à fleurs, et donc ce n'est pas du tout le même paysage. Mais quand on prend la Camargue gardoise et la Camargue elle-même, c'est... Les paysages sont identiques.
Voilà, en fait, dans lequel je voudrais insister, mais tu me dis si je dis n'importe quoi. En fait, il y a trois Camargues. Il y a le Rhône se forme un delta avec deux branches, le petit et le grand Rhône.
C'est
donc
ça.
La partie qui est à l'intérieur de ces deux bras s'appelle l'île du Rhône, puisqu'ils étaient entourés d'eau.
Oui.
Donc c'est ce que les gens pensent être la Camargue. En fait, c'est la Camargue, Sainte-Marie de la Mer étant au bout.
Hein, oui, voilà. Absolument.
Et puis, il y a du Rhône. Alors, quand on regarde une carte à gauche du Petit Rhône, il y a une bande qui va du Rhône au Vidourle, une partie du Vidourle,
oui.
Ce qu'on appelle la Camargue gardoise.
Oui, ou la Petite Camargue autrefois.
Alors, on appelait la Petite Camargue avec des villes que tous les Limois connaissent. Alors, Aigues-Mortes, Le Quélard, etc. Hein.
Bien sûr.
Saint-Gilles,
Saint-Gilles
au nord.
Saint-Gilles juste à la porte de la Camargue.
Voilà, c'est juste, juste au nord. Nîmes n'est pas. Hein, il n'est pas,
non, c'est
pas
au-dessus.
De la Camargue.
C'est au-dessus.
Et puis après, de l'autre côté du Rhône, c'est-à-dire sur le bras droit, quand on regarde en face, et même dans le courant, c'est ce bras gauche, il y a la Camargue d'Arles, la Camargue de la plaine de Croc, où il y a quelques marées, comme tu as dit.
Voilà, et après les déserts.
Il y a trois sortes de Camargue. Alors, j'aimerais insister un peu sur Nîmes, parce que Nîmes est un peu, je viens de le travailler, c'est pour ça que je vais en parler, est un peu en dehors. C'est-à-dire que Nîmes n'est pas provençal, parce que la Provence, c'est l'autre côté du Rhône, hein, c'est Arles, c'est l'autre côté, elle n'est pas provençale, mais quand même est très. Il y a comme je dis, Nîmes a le parfum de la Provence, hein, donc il n'y a pas le lieu, mais il y a le parfum. Et puis, ça a marqué énormément parce que un personnage qui a créé la Camargue que l'on connaît, qui est Folco de Baroncelli, a signalé que son petit-fils Béranger, Béranger
oui.
Aubanel,
oui,
que tout le monde connaît dans le monde de la bovine, et le petit-fils de Folco de Baroncelli, est membre de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue. C'est lui qui a créé la culture, la tradition, avec bien évidemment une impulsion de Mistral. Mais oui. Folco de Baroncelli, avec sa grand-mère qui était nîmoise, il a vécu à Nîmes. Et sa grand-mère habitait place de la Salamandre, donc il a été extrêmement frappé par Nîmes et par des gens comme Daudet, etc., dans la culture, Félibré, qui était à Nîmes. Et c'est pour ça que Nîmes, quand même, est un peu camarguaise. Et on le voit avec les traditions de taurines, parce que Nîmes est une ville de tradition de taurines. Elle donne quand même une part importante à la bouvine. Bon, et alors, là, tu nous as défini le côté du nom de la Camargue, de son territoire. Et pourquoi tu aimes la Camargue?
Pourquoi j'aime la Camargue? Parce que c'est un des rares endroits qui existe encore en France où on est entièrement près de la nature. Je me souviens, je travaillais à l'époque à la Chambre d'agriculture de Nîmes. Et ben, quand je partais le soir, j'avais une nouvelle vie. Je changeais. C'était la vie urbaine et je me retrouvais au milieu des oiseaux, au milieu on voit pousser les fleurs, on voit pousser les feuilles, etc. C'était extraordinaire à notre époque de pouvoir avoir ces deux choses, c'est-à-dire avoir une vie intense et actuelle et en même temps retrouver les traditions qu'avaient nos ancêtres et qui existent encore, puisque la Camargue est une zone préservée et donc elle est maintenant ce qu'elle était depuis Napoléon III. Je dis bien depuis Napoléon III parce qu'avant, la Camargue était insalubre.
Oui.
Et c'est Napoléon III
oui,
qui l'a assainie.
Alors, pour mieux qu'on te connaisse, là, tu viens de nous dire que tu travailles à la Chambre de commerce de Nîmes. Donc, tu étais Montpellier.
D'agriculture.
D'agriculture. Donc, tu es Montpellierain.
Oui.
Mais tu as travaillé à Nîmes.
Oui.
Et tu habitais Saint-Gilles.
Oui.
Et donc, tu faisais la navette, si j'ose dire.
Chaque jour. Et avec grand plaisir.
Et tu habitais Saint-Gilles. Et tu habites Saint-Gilles depuis, tu nous as dit au début,
depuis 70 ans, dans un mas en Camargue, depuis 70 ans.
On ne va pas calculer ton âge. Mais en fait, 70 ans, c'est quand même. Tu connais bien la ville, quoi.
Je commence à la connaître, oui.
Bon, mais c'est très bien. Ben, vous écoutez bien l'émission, et si on parlait de la Camargue, sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM, ou en DAB+, avec Michel Durand-Roger, président de l'Académie de Saint-Gilles et de la Camargue, et Jacques Jaume. Et je vous propose une pause musicale.
Señorita, cuando baila, todo el mundo se levanta y la aclama. Toda la gente se va de fiesta y tenemos nosotros alegría. Es por eso que yo cantaba esta rumba que cantó, señorita. Es por eso que yo cantaba. Esta rumba que cantó, señorita. Señorita, baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. Baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. En la bodega vamos de juerga, con mi primo, mis amigos, viva la rumba. Toda la gente se van de fiesta y tenemos nosotros alegría. Es por eso que yo cantaba esta rumba que cantó, señorita. Es por eso que yo cantaba. Esta rumba que cantó, señorita. Señorita, baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. Baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba.
Vous écoutez, ici on parlait de la Camargue avec Michel Durand-Roger, une émission produite et animée par Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. C'est une nouvelle émission mensuelle sur la régionalisation qui évoque la Camargue. Michel est président de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue. Et donc, on s'occupe de tout ce territoire Camargue, on a bien défini. Hein. Donc, d'abord, le nom, ben, on ne sait pas d'où ça vient, en fait, c'est peut-être un patronyme. Et puis, de ce territoire qui est divisé en trois parties, la Petite Camargue, l'île du Rhône, et puis la Camargue d'Arles ou de Croix, etc. Il faut dire que toute la Camargue, avant, c'était Arles. C'est pour ça que Arles a l'impression d'avoir... de posséder la Camargue, c'est-à-dire que les Arlésiennes, tout ça, toute la commune d'Arles descendait et englobait toute la Camargue. Hein je vais vous donner une petite anecdote. En tant que médecin, j'ai eu l'occasion de faire des remplacements à Saint-Gilles, hein, au début où il y avait encore des médecins qui se déplaçaient la nuit. La garde commençait le vendredi soir à 20h, finissait le lundi à 8h. Vous imaginez pas, il y avait un médecin pour tout. Mais il y avait ce triangle entre Garonne, qui est la limite de la commune de Saint-Gilles, et la limite d'Arles. Donc toute la Camargue, on était de garde. Donc c'était la Camargue de la nuit. Ben, ça n'a rien d'intéressant parce que c'est un grand trou noir. Quoi. Mais oui, c'est pour vous dire que c'est un grand territoire. Alors, on a défini trois Camargues. La Camargue gardoise, on y revient, l'île de la Camargue. Alors, est-ce qu'il y a des particularités de ces trois Camargues ou en fait, on trouve une folklore qui est globale dans les trois Camargues?
On trouve un folklore qui est global, surtout dans la partie centrale, dans l'île, et en même temps dans la Camargue gardoise. Bon, l'autre côté, c'est un peu différent, comme tu dis ici, un petit peu parce qu'il y a Arles, mais ensuite il y a l'accro, et l'accro, c'est une chose qui t'appare un peu, parce qu'elle est très aride, c'est différent. Bon, mais il y a une chose que les gens ne savent pas toujours, mais qui est à mon avis très important, c'est que les traditions camarguaires camarguaise dont a fait part le marquis Baroncelli, ce sont des traditions du Kélard. Et le Kélard est situé en Camargue ardoise, ce n'est pas dans le centre. Voilà, donc je pense qu'il y a les traditions camarguaises que l'on trouve partout dans l'ensemble de la Camargue.
Et qui se sont répandues
d'Arles. Ont eu une origine qui, en fin de compte, est en Petite Camargue.
Oui, alors, parle-nous de ces traditions du Kélard. D'où c'est parti? D'où ça vient?
Ça vient en grande partie du marquis de Baroncelli. Parce qu'avant le marquis de Baroncelli, il y avait pas vraiment des traditions, il y avait des cultures.
Mais lui, c'est quand même les Sainte-Marie de la Mer. Il est parti.
Et le Kélard aussi. Puisqu'il a actuellement, il y a encore sa maison qui existe au Kélard, bien entendu. Et il avait une manade au Kélard. Il faut le demander à Béranger, il pourra te le confirmer, puisque ça l'occupe. Je crois qu'avant, il n'y avait pas vraiment de tradition, il y avait des traditions agricoles. Et ces traditions agricoles, c'était des grands masses, la plupart du temps, où il y avait des cultures.
Et est-ce qu'on faisait beaucoup de riz, de blé? C'était quand même une agriculture intensive
Oui, mais alors le riz, on en parlera après, parce que c'était quand même assez important, je crois, la tradition du riz. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la hiérarchie des masques camarguais, le dernier, c'était le vacher. Le vacher, il s'occupait des taureaux, de culture, pas uniquement des taureaux, aussi des moutons, on fait tout ce qu'on veut.
Et c'était un gardien, un berger.
C'est le gardien, mais ça s'appelait le vacher. Et non seulement il n'était pas très, très, très important dans les masses, mais même il y en avait qui n'avaient même pas de quoi se payer à cheval et qui gardaient les troupeaux à ce qu'on appelle un bâton planté.
Voilà, et donc, ça ne le sait pas. Ça, oui.
Et ça prouve que ce n'était pas très, très important dans l'hierarchie du masque. Et Baroncelli, lui, a fait un parallèle entre, on y reviendra peut-être, entre le Far West et la Camargue. Bon, et ça, du coup, grâce à ça, le gardien est devenu quelque chose d'extrêmement important.
On va en reparler, ce sera ma dernière question.
Voilà. Oui, alors, donc c'est là qu'ont commencé les traditions.
Avant le début du siècle, la Camargue, c'était un lieu infesté de moustiques,
entre
de
autres.
Marais, de ceci, avec des masses, tu m'arrêtes évidemment si je dis n'importe quoi, des masses mais qui faisaient l'agriculture, mais pas intensive, un peu de blé, un peu d'orge, quelques moutons, il y avait des cochons, des choses comme ça.
Au Moyen-Âge, on disait qu'il y avait le bétail gros et le bétail menu.
Voilà.
Et, donc c'est ça.
Et
c'est
puis,
des moutons et c'est des
la particularité quand même de la Camargue, c'est qu'il y avait des taureaux d'une race particulière.
Et les chevaux.
Qui étaient en liberté, c'est-à-dire il n'y avait pas de troupeau, il n'y avait pas de barricade, et puis des chevaux. Et pour garder tout ça, eh bien, il fallait un berger qui au début était à pied, et puis quand c'était des marécages, on lui disait « monte sur le cheval parce que tu te mouilleras moins les pieds ».
C'est ça. En fait, il y a une chose amusante à dire en ce qui concerne les taureaux et les chevaux. Le cheval camarguais, il est d'origine en Camargue. C'est-à-dire qu'on prend un cheval, on le met, s'il n'y a pas de barrière, en Camargue, quoi qu'il arrivera, il survivra.
Ouais.
Alors que le taureau, c'est différent. Le taureau, l'hiver, il faut le nourrir.
Oui.
Et on pense que le taureau a été importé pour l'agriculture par les Grecs. Ouais. Puisqu'on retrouve sur les portugais grecs des taureaux avec des cordes similaires à ceux de Camargue.
Un lyre, voilà. Oui.
Donc il semblerait que le taureau n'est pas d'origine camarguaise. Il a été importé il y a longtemps, mais il a été importé. Alors que le cheval, ça va beaucoup plus loin.
Alors, on ne parlera pas trop de taureaux, parce que vous savez que sur Radio Alliance Plus, il y a sur les chemins des taureaux une émission qui est spécialisée sur la tauromachie. Mais on ne peut pas évoquer la Camargue sans parler de taureaux, bien évidemment. Donc on en parlera un peu, mais surtout sur le côté historique, folklorique, tout ça, mais pas dans le dur de la tauromachie camarguaise, c'est le propre d'une autre émission sur notre radio que vous connaissez, que vous suivez. Alors, l'agriculture, on a parlé un peu de blé, etc. Et le riz?
Alors, le riz, en fait, il a été cultivé pour la première fois en Camargue sous Henri IV. Ils ont fait des essais, ça marchait, mais le problème, c'est qu'il y avait tellement de moustiques que les gens ont supplié le roi d'arrêter cette culture parce que ça ne leur plaisait pas du tout. Et c'est ce qu'a fait le roi, il a arrêté. Et ça a recommencé sous Louis XIV, et même Topo. C'est-à-dire, on a trouvé ça très bien, mais en fait, c'était épouvantable parce que les terres étaient insalubres et donc les gens ne voulaient pas du tout cultiver ce genre de choses. Donc, en fait, tout s'est arrêté de nouveau et en fait, la culture du riz proprement dit, elle a été relancée au début sous Napoléon III, pour une simple et bonne raison. C'est que Napoléon III a décidé d'assainir la Camargue, et pour ça, il a fait les digues du Rhône. Mmh. Ce sont des digues qui font 6 mètres de haut, alors qu'à l'époque, il y avait des digues, c'était des passages autour du Rhône, qui faisaient à peine 2 mètres. Bon, à partir du moment où il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il y avait les digues de 2 mètres, plusieurs fois dans l'année, eh ben, le Rhône sortait. Et oui. Quand il sortait, il amenait du limon, il amenait des choses, et surtout, l'eau douce faisait descendre le sel. Mmh. À partir du moment où on fait des digues, ben, le sel, il remonte. Donc la seule manière de continuer à le faire descendre, c'est d'avoir des cultures avec de l'eau. Il y en avait deux de possibles. C'était la viticulture avec les vignes inondées, comme ça se faisait traditionnellement, ça ne se fait plus maintenant depuis les plans américains. Et puis après, il y avait le riz. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le riz a intéressé les Camarguais, tout au moins les gens qui s'occupaient de la Camargue. Et par la suite, alors, ça a été le déclenchement vraiment du riz, c'est au moment de la dernière guerre. Il y avait, bon, la guerre était presque terminée, et il y avait des personnes qui venaient de l'Orient, que ce soit Cambodge, que ce soit enfin, des colonies françaises, si on veut dire, qui étaient ici, et qui étaient venus pour l'armée, et ils ont eu l'idée à ce moment-là de leur demander de rester, pour lancer la culture du riz en Camargue.
Mais oui, le riz de Camargue était important.
Et le riz de Camargue vient vraiment de là, parce qu'ils l'ont fait d'une manière très générale. Et j'en sais quelque chose, puisque mon père a acheté le mas à l'époque, à cause de ça, parce que c'était le départ de la culture du riz.
Et ça marchait?
Et ça marchait très bien. Puis après, il y a eu la concurrence, bien entendu, de l'Europe, etc. Mais disons qu'avant qu'il y ait la concurrence de l'Europe, le riz était très intéressant.
Le riz de Camargue est bien connu, de bonne grande qualité actuellement. Enfin, je ne suis pas spécialiste du riz.
Oui, la qualité du riz ne provient pas tellement du terroir. Parce que le riz, en fait, c'est pas comme la vigne. Hein.
C'est-à-dire,
c'est...
Ben on fera une émission sur le riz.
Oui, c'est-à-dire, il y a le grain long, il y a le grain... On en parlera plus.
On fera une émission. Alors, oui. Jamais que... Ma dernière question, mon dernier propos, question d'aujourd'hui, porte sur le marquis, comme on dit en Camargue, même si ce titre porté par le chef de famille n'est que de courtoisie. Hein, on ne va pas faire l'histoire de la famille des Folcaux de Baroncelli. Mais c'est vrai qu'il avait quand même, mais c'est une noblesse particulière. Ça serait, on reparlera de Folcaux de Baroncelli.
Oui.
Alors, c'est un disciple de Frédéric Mistral. Hein, Frédéric Mistral, oui, c'est Philibert. Hein, Et il a écrit Mireille, quand même. Oui, quand on va au Sainte-Marie de la Mer, il y a une belle statue de Mireille. Un poète.
Oui, je me permets une parenthèse. Il travaillait avec Frédéric Mistral, mais Frédéric Mistral ne voulait pas de la Camargue parce qu'il trouvait qu'elle était infestée de moustiques.
Et oui, toujours.
Il n'y est allé que deux fois en Camargue. Alors il avait dit à Baroncelli, si tu veux, tu t'en occupes. Oui, c'est ça qui s'est passé.
Oui, mais c'est ça. Mistral était très, très, très comme ça. Et alors. En fait, Mistral a considéré un peu l'idée avec le marquis d'inventer la Camargue. Et puis, tu nous en as parlé un peu à travers le western camarguais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, alors, c'est un concours de circonstances. En fait, il y avait Buffalo Bill, a été très important dans la mise en place du folklore américain. Et après, il a voulu faire une tournée avec le cirque Barnum. Mmh. Et le cirque Barnum, qui était un cirque très important, est venu en Europe. Mmh. Et il est venu à Nîmes. Et à ce moment-là, Mistral, qui était de toute manière très intéressé par les Indiens depuis longtemps, Baroncelli était très intéressé par les Indiens, par cette culture, parce qu'il la considérait comme une vraie primitive, etc., a voulu rencontrer
Buffalo Bill, qui est venu à Nîmes.
Et la troupe des Indiens.
Qui est venu à Nîmes.
C'est ce qui s'est passé. Mais, contrairement à ce que l'on croit, Buffalo Bill n'est pas venu en Camargue. Ce sont les Indiens qui sont venus en Camargue. Et donc, ils ont trouvé ce territoire extraordinaire et Baroncelli les a reçus d'une manière très intéressante. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de faire ce rapport entre le Far West et la culture du Far West et la culture camarguaise.
Voilà, et c'est là où il y a eu les premiers westerns tournés en Camargue.
Alors, les premiers westerns tournés en Camargue, c'est son frère était dans le cinéma.
Dans le cinéma, oui.
Qui était à Paris. Et le premier western du monde a été tourné, en fait, dans la forêt, si je me trompe, de Fontainebleau.
Bon.
Et malheureusement, il s'est perdu. Et alors, il lui a dit, mais plutôt que de faire ça, il faut que tu viennes en Camargue, parce que c'est là qu'on peut faire des choses qui rappellent le Far West. Et il est venu en Camargue, et ils ont tourné les premiers westerns avant les Américains.
Bon. Les premiers westerns sont camargués.
Sont camargués. Et après, mais ils ont fait l'attaque de la banque, ils ont fait...
Ouais, ils ont fait les westerns.
Les westerns, ils ont fait tomber une machine à vapeur, ils ont fait de tout en Camargue.
Très bien, mais merci pour ces explications que tout le monde ne connaît pas. Alors, vous savez que j'aime beaucoup les livres, et donc il y a deux livres qui sont sortis. Je vous parle le premier, c'est Frédéric Simien qui vient de sortir un livre, La Camargue gardoise de 1850 à 1970 aux éditions Sutton. Les éditions Sutton est une édition très intéressante, qui est très régionaliste, et qui fait beaucoup pour la Camargue. Alors je vous cite ce premier livre, là, pour cette première émission, je vous lis... Un commentaire, territoire d'exception par sa riche histoire et ses milieux naturels variés, la pointe sud du département du Gard est un espace fascinant à travers plus de 250 photographies, parfois exceptionnelles et souvent inédites. L'auteur nous invite à découvrir Aigues Mortes, au Gros du Roi et Saint-Laurent-des-Gouzes des années 1150 à 1970. Ce livre nous plonge dans le quotidien des habitants très attachés à leur patrimoine et à leurs coutumes. Et si les remparts médiévaux on peut changer, la vie qui anime ces trois cités a, elle, énormément évolué. Commerce et activités passées, production de sel, pêche, reconstruction de ponts après-guerre, vie culturelle, joutes et fêtes votives. Quel plaisir de voir ces clichés où très souvent les personnages sont joyeux et nous donnent envie de les rejoindre pour passer un bon moment en remontant le temps en leur compagnie. Donc, il faut que vous achetiez ce livre, La Camargue gardoise, aux éditions ES Éditions Sutton, qui font beaucoup de régionalisation. Alors, Michel, toi aussi, tu as écrit un livre. Alors, en deux secondes, présente-nous ton futur livre sur la Camargue et Saint-Gilles.
Ce n'est pas sur la Camargue, c'est sur l'histoire de Saint-Gilles. Parce que j'ai essayé de faire avec Karine Schumacher, qui a fait des dessins, j'ai essayé de faire un livre d'heures.
D'accord.
C'est-à-dire un livre.
Donc. On fera une émission sur ce livre, donc, en sachant qu'il y a un nouveau livre.
Un nouveau livre qui est, en fin de compte, qui est de l'extraordinaire histoire du grand Saint-Gilles et de ses miracles.
Voilà. Eh bien, voilà. Très cher Michel, merci infiniment pour notre première rencontre qui a donné l'ambiance si chaleureuse de nos émissions sur la régionalisation et qui évoque la magnifique Camargue. Et si on parlait de la Camargue. Merci encore infiniment à toi Michel. Et à très vite pour une nouvelle émission. Et si on parlait de la Camargue, et comme on dit en Camargue, hasta vista.